Bonjour frères et sœurs. Bien, la fête n'est pas finie. On reste dans la même ambiance de la fête. Mais hélas, ma prédication aura l'air d'un contre-courant ou d'une sorte de rabat-joie. Mais ne vous en faites pas, nous allons nous rejoindre à la fin pour pouvoir fêter la venue du Christ. Nous avons notre lecture dans Ésaïe, au chapitre 1er. Nous allons lire du verset 10 au verset 20. Ésaïe, chapitre 1er, verset 10 jusqu'au verset 20. Nous lisons. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple des Gomorrhes. Qu'ai-je à faire à la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande d'essuyer mes parvis? Cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir les crimes s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Ils me sont en charge, je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la volonté et si vous êtes docile, vous mangerez le meilleur production du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Oui, comme je l'ai dit souvent, je suis de la vieille école. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu peace and love, un Dieu qui laisse tout aller au nom de l'amour, comme nous pouvons parfois le penser. Oh non, chez nous, c'est très bien, notre Père, il n'est pas sévère, il ne dit rien, vous faites ce que vous voulez. Il pardonne tout, il est gentil. Ça, c'est notre façon de voir. Mais ici, nous avons l'aspect, nous avons la vision. Ça, c'est le prophète Ésaïe qui tire cette histoire de Sodome et Gomorrhe dans l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 19. Et transpose cette histoire à Juda et Jérusalem, eh bien, nous voulons profiter aussi pour en faire nôtre aussi cette histoire, cette prophétie. Nous voulons nous voir nos vies à travers cette prophétie. Oui, à l'époque, il y avait des sacrifices. Mais maintenant, les sacrifices, serait nous qui venons vers l'Éternel, tout ce que nous pouvons lui dédier, c'est là nos sacrifices. Mais ici, le Seigneur nous pose la question de savoir pourquoi nous venons présenter toutes ces choses devant lui. Et allons jusqu'à dire que oui, nous suivons ses parvis et avoir nos offrandes en horreur, comme s'il voulait rien entendre de nous. Oui, mes chers frères et sœurs, nous devons comprendre ces versets comme un élève qui va à l'école. Quand nous allons à l'école, c'est ne pas y aller apprendre des leçons jour après jour sans rien faire. Seulement, il faut chaque jour être prêt à répondre dans les systèmes de contrôle continu. Chaque jour, nous devons être prêts à répondre à une interrogation écrite ou orale et de pouvoir participer à la leçon. Donc, ce qui nous obligeait chaque jour à pouvoir répéter, à travailler ce qu'on a fait à l'école pour être prêt le lendemain. Et ici, en quelque sorte, la question qui nous est presque posée, c'est de savoir quelle disposition prenons-nous pour être en face, pour venir vers Dieu. Avons-nous une préparation préalable pour venir le voir ou nous venons parce que les dimanches derniers, on était ici. Et que dans la semaine, parfois on oublie. Et c'est le dimanche, parfois quand on arrive ici, qu'on se rend compte que, ah, c'est dimanche, il va avoir ceci ou cela. Oui, nous n'avons pas de préparation. Nous venons devant le Seigneur sans considération. Au verset 13, il dit, je ne peux voir s'associer le crime aux solennités. Nous pouvons nous penser ne pas être criminels. Certes, c'est vrai. Mais dans 1 Jean 3, 15, il est dit, si vous haïssez votre frère, oui, vous êtes criminel. Et que le crime commis, enlève en nous la vie éternelle. Et que quand nous venons devant l'autel de l'Éternel, est-ce que nous avons réglé nos différends avec tous nos frères? Car la parole nous l'enseigne aussi. Si vous voulez aller offrir et que vous vous rendez compte dans votre esprit qu'il y a quelque chose où vous avez un différend avec un frère ou une sœur, vous devez tout laisser sur place et repartir pour régler ces problèmes. Oui, nous venons parfois avec le cœur plein de rancune. Il nous arrive de chanter la louange de l'Éternel sans se retourner à gauche parce qu'il y a quelqu'un que vous n'êtes pas bien avec. Vous restez coincé à un seul côté. Oui, mes frères. Il peut se passer des choses drôles dans l'Église. Mais nous devons savoir que nous venons devant l'Éternel. Oui, le Seigneur dit même qu'il est là de les supporter tout ce que nous faisons, toutes les fêtes. Au verset 15, il va jusqu'à dire, quand nous étendons nos mains lui détourne son visage. Vous savez, ça c'est quelque chose de très courant aux enfants, même aux adultes aussi. Quand un enfant s'approche des parents après avoir fait une bêtise, nous avons l'habitude de lui dire « hors de ma vue ». « Hors de ma vue », ce qui signifie tout simplement que tout ce que tu fais ne m'intéresse pas, parce que tu n'as pas été digne que j'accorde attention à tout ce que tu fais. Oui, mes chers frères et sœurs, quand nous multiplions nos prières, il n'écoute pas. C'est difficile. C'est difficile d'être dans cette situation où nous venons devant l'Éternel, où nous disons des mots, des phrases que nous pensons que ça va lui faire plaisir, mais lui nous rétorque qu'il n'écoute pas. Tout simplement parce que ce sont des mots qui viennent d'un cœur qui n'est pas préparé pour être en face du Seigneur. Oui, nous avons dit que les temps étaient gradués. Les temps, c'était des secondes. Les temps, c'était des minutes, c'était des heures, des jours, des mois, des années. Oui, c'est une période des fêtes, certes, mais c'est une période aussi qui nous permet de nous arrêter. Nous ne pouvons pas continuer à courir si nous ne savons pas d'où nous venons, si nous ne savons pas où nous allons, si nous ne savons pas dans quelle situation nous nous trouvons. Nous sommes parfois, pendant très longtemps, dans l'Église, mais nous continuons à courir sans nous examiner. Nous continuons à courir sans nous arrêter pour voir où nous en sommes. Oui, l'occasion de transiter dans une autre année, dans une nouvelle année, peut être pour nous un moment d'examen. C'est ce qui nous est et dit au verset 18, oui, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Oui, peut-être que nous venons pour l'Église, peut-être que nous venons pour les personnes qui nous regardent, mais cette année nouvelle, c'est l'année où nous allons être moins méchants dans nos actions, que nous allons cesser de faire le mal que nous faisons par nos actes, le mal que nous faisons par nos paroles, par nos pensées, et que sais-je encore, certes, cette façon d'agir parfois peut nous sembler anodin, nous avons tellement pris l'habitude, mais le temps est arrivé de nous arrêter. Oui, cette fin d'année et l'année nouvelle qui s'ouvre devant nous doit être une période des réflexions. Est-ce que je serai toujours la même personne? Sans le savoir, nous prions, nous chantons, nous parlons peut-être à une personne qui a le regard détourné de nous. Parce que nous faisons par notre être entier. Oui, c'est la période où nous devons nous arrêter et dire, est-ce que le Seigneur m'écoute toujours? Est-ce que je suis toujours en phase avec le Seigneur? Ou plutôt c'est la routine? Par mes grands-parents, par mes parents, je suis toujours allé à l'église. Est-ce que nous allons continuer toujours pareil? Oui. Le verset 17, j'ai beaucoup aimé cette expression de dire « Apprenez à faire du bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. » Oui, apprendre à faire du bien. J'ai beaucoup aimé parce que ce n'est pas à faire du bien, mais à apprendre à faire du bien. Parce que dans notre société, il est beaucoup plus difficile de faire du bien. Faire du mal, comme l'avait chanté un musicien, il y a des écoles pour apprendre à tuer, mais il n'y a pas d'école pour apprendre à aimer. Et ça, tout simplement pour dire qu'il est plus facile de répandre une mauvaise nouvelle. Il est plus difficile et plus facile qu'un voisin vienne te voir. Oh, lui, il ne faut pas le parler, lui. C'est... Mais personne ne vous invitera à vanter les uns les autres. Parce que ce n'est pas bien. C'est comme si notre société nous défendait d'être bien. Oui, l'occasion nous est donnée de faire un stop, de s'arrêter. Et puis, de rechercher à être juste, juste face à la loi divine, celle qui consiste à faire attention aux autres. On ne regarde pas à gauche parce qu'à droite, il y a quelqu'un qui a besoin de nous. Oui, nous sommes compatissants aux douleurs des autres. Nous ne disons pas que oui, moi aussi, j'ai mes problèmes. Nous avons le temps. Donnons-nous le temps de voir la détresse autour de nous. Donnons-nous le temps d'aider, de nous aider les uns les autres. Vous voyez, toute cette partie, c'est le père qui fait la remarque à ses enfants. Et à la fin, c'est encore lui qui revient pour nous dire « Venez et plaidons ». C'est l'amour qu'il a envers nous qui fait que quand il nous reproche un certain temps et après, il revient vers nous. Ça c'est, on le voit toutes ces histoires dans l'Ancien Testament où le peuple d'Israël s'est révolté envers Dieu, ils allaient vers des dieux qu'ils trouvaient dans les pays où ils étaient. Mais à toutes les étapes, Dieu était là et venait les secourir. Et maintenant, le Seigneur qui nous dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils sont presque marrons, ils deviendront blancs comme la neige. Bon, on n'en a pas eu. Mais le Seigneur nous promet que si nous nous purifions, si nous marchons droit, Oui, il va rendre nos cœurs blancs. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine, purs aussi. Mais le Seigneur, j'aime bien, comme je le disais tantôt, que je suis de l'ancienne école. Ce n'est pas « allez-y, allez-y », non. Et il nous demande d'avoir de la volonté et d'être docile. Il commence par nous donner des mots de déception, je dirais même presque de colère. Il refuse de recevoir tout ce que nous lui offrons. Il se détourne de tout ce que nous pensons être des louanges pour lui. Et il nous demande de nous laver, de nous purifier, de cesser de faire le mal, d'apprendre plutôt à faire le bien, pour que nous soyons purifiés. Mais il ajoute à cela, si nous avons de la volonté et si nous sommes dociles, alors là, nous allons manger les meilleurs produits du pays. Ça sera notre récompense. Oui, il nous invite à changer notre façon d'être et aussi, il nous invite à travailler là-dessus. Certes, quand nous voulons devenir meilleurs, nous devons y mettre du sien. Nous avons ce libre arbitre, cette façon qui nous permet, cette liberté qui nous permet de travailler ce que nous sommes. Si vous ne voulez pas être tenté par la confiserie, vous changez de chemin. Si vous savez que vous pouvez tomber dans un piège, vous vous dites en tant qu'être raisonnable, vous vous dites, je crois que je peux me faire aider. Nous trouvons des astuces pour, je dirais, bon, moi je suis de l'Afrique et très souvent, il arrivait que les dimanches matins, il y avait presque un convoi à pied qui allait de maison en maison. Alors on y va. Et parfois, ces jours-là, vous n'avez pas envie, vous traînez de pied en voyant des amis qui vont à l'église, et puis vous dites, bon, allons-y. Et arriver, ça vous encourage, ça nous encourage à être souvent présents à l'église. Et moi, je pense que ne vivons pas parfois notre foi tout seul dans un coin. Oui, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin d'être soutenus pour que nous puissions avoir la couronne, la récompense. Oui, nous devons avoir cette volonté de pouvoir changer. Et le Seigneur, toujours, pourquoi on peut vous dire que c'est à prendre ou à laisser. Si vous résistez et si vous êtes rebelle, et là, il est sans appel, vous serez dévoré par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est pour nous responsabiliser, pour nous dire que bon, je dois prendre ma situation en main. J'ai le choix ou d'être récompensé, ou ma perte. Oui, mes chers frères et sœurs, c'est le moment. Nous terminons une année, nous allons entrer dans la nouvelle année. C'est le moment de nous examiner. Ne nous perdons pas dans le champagne. Ne nous perdons pas dans toutes ces lumières. Mais arrêtons-nous. Nous allons regarder à gauche, à droite, pour pouvoir continuer notre route et de savoir est-ce que l'année passée, est-ce que le Seigneur m'a écouté ou il avait le regard détourné. Est-ce que tout ce que je fais, tout ce que je pensais lui adresser, c'est arrivé ou n'est pas arrivé? Ah oui, c'est moi le problème. C'est moi, je n'ai pas marché selon ses commandements. J'ai vécu une vie chrétienne, ritualiste. J'y allais tous les jours, j'allais à toutes les réunions. Mais est-ce que en moi-même, il y avait du travail qui a été fait? Oui, mes chers frères et sœurs, les remarques de notre Père, c'est toujours pour nous mettre sur le droit chemin. L'année nouvelle va commencer et nous allons la commencer avec le Seigneur. Qu'il nous bénisse tous en Jésus-Christ. Amen. Prions. Oui, Seigneur, merci. Merci, car tu nous aimes. Tu es un Père aimant. Tu nous aimes, c'est pour cela que, Seigneur, tu nous rappelles à l'ordre à tout instant. Tu n'aimerais pas que nous nous perdions. Oui, Père, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes à toi, Père. Pendant cette période de transition, Seigneur, nous voulons renouveler notre confiance en toi. Nous voulons renouveler notre attachement à toi, Seigneur. Oui, bénis-nous ensemble, Seigneur, pendant cette période. En Jésus-Christ. Amen. Bien, nous allons nous souvenir du temps que Jésus est passé parmi nous. C'est Paul qui nous parle de ce qu'il a reçu du Seigneur pour la commémoration de sa mort et sa résurrection, de ce repas qu'ils ont pris avant sa mort. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 29. Je lis donc. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner les corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Oui, la table est dressée pour les baptisés, ceux qui ont déclaré ouvertement leur appartenance au Christ et sont passés par l'eau du baptême. C'est un moment où chacun doit l'exprimer comme il entend, c'est-à-dire, il y a ceux qui prennent la coupe dans la joie, il y a ceux qui prennent ce repas dans des réflexions, il y en a qui le prennent tout simplement en pensant à Christ qui est mort pour nous. Nous allons donc nous lever à nos places pour ceux qui sont baptisés, ceux qui prennent la coupe. Nous allons nous lever et je vais demander à deux frères et deux sœurs que j'avais demandé au préalable de venir m'aider pendant ce temps. Lèvons-nous, s'il vous plaît.